Salut à tous et bienvenue dans ce premier numéro du podcast F1i. Mon nom est Andy David et aujourd'hui je reçois Pierre Van Vliet, rédacteur en chef de F1i, pour prédire les événements qui vont faire la saison 2019 à la veille du premier Grand Prix qui se dispute dimanche à Melbourne. Bonjour Pierre.
Bonjour Andy, bonjour à tous.
Dans les minutes qui viennent, nous allons tenter de cerner les forces en présence en nous livrant un petit jeu. Nous allons prendre le classement du championnat du monde des constructeurs de l'an dernier et tenter de déterminer si les 10 équipes feront mieux ou moins bien qu'en 2018. Pierre, on commence à la dernière place. L'an passé, Williams a marqué 7 points avec Lance Stroll et Sergei Sirotkin. J'ai un petit peu honte de dire ça quand même. Williams, 7 points. C'est un accident industriel ou est-ce que l'équipe de Sir Frank est au bord du gouffre?
Je crains qu'elle soit au bord du gouffre et qu'elle ne fasse un grand pas en avant en 2019. Donc, ça risque de se précipiter encore plus bas. Parce que franchement, malheureusement, ils ont complètement loupé le...
Les essais à Barcelone.
Oui, les essais à Barcelone. Enfin, la nouvelle voiture, visiblement, alors que ça faisait des mois qu'ils savaient qu'ils étaient déjà au fond du trou, parce que la voiture de l'an dernier était vraiment pas du tout au niveau. Et la FW42, pas d'îlot. Il y a eu beaucoup de changements chez Williams en interne. Ils ont pas beaucoup recruté. Ils ont plutôt réorganisé, restructuré. Il y a pas mal de gens qui sont partis.
Je crois que c'est Dirk De Baer, donc l'auteur de la monoplace ratée de l'an dernier.
L'aérodynamicien est parti. Il y a quand même Rob Smedley, qui est un type avec beaucoup d'expérience en exploitation, qui est parti aussi. Ben Wood, un designer. Enfin bref, Paddy, qui a une grosse expérience, mais qui n'est pas un concepteur, qui est plutôt un organisateur. Voilà, c'est sur ses épaules que reposait la Williams, c'est le renouveau de Williams ou la relance de Williams. Et voilà, on sait ce qu'il en est advenu. La voiture est arrivée en retard à Barcelone. Elle est à une seconde
déjà devant
de la première équipe devant. Et voilà, et Paddy ne sera pas en Australie, et visiblement, il est sur une voie de garage, pour ne pas dire plus. Donc, chez Williams, c'est un peu le feu.
C'est quoi le problème, au fond?
Moi, je crois que c'est un problème de, je dirais presque structurel, culturel. McLaren, c'est un peu pareil, c'est des équipes du XXe siècle avec des structures lourdes, avec des mentalités aussi qui sont un peu établies, avec une certaine, un petit complexe de supériorité où ils pensent que ils savent tout mieux que tout le monde, alors que ça fait quand même des années que ça dure et qu'ils sont dans une mauvaise passe. Et par rapport à des équipes plus jeunes ou à des modèles économiques un peu différents, ben ils en pâtissent et c'est lourd à modifier aussi bien les mentalités que les structures. Donc je suis pas très optimiste pour Williams.
Au volant, on va retrouver une vieille connaissance, Robert Kubica. Le Polonais était éloigné de la Formule 1 depuis 2011. À l'époque, un accident de rallye lui avait sectionné les nerfs de sa main droite, réduisant sa mobilité. Ce comeback, il est beau symboliquement, mais est-ce qu'il peut être couronné de succès?
On en rêve, évidemment, parce que d'abord, Robert, c'est un type formidable, c'est un très grand champion, c'est un pilote très talentueux, et voilà, il nous manquait depuis presque 10 ans maintenant, et là, voilà, on y avait cru l'an dernier, puis malheureusement, ni Renault, ni Williams ne lui avaient vraiment donné sa chance, pour des raisons qui restent parfois un peu nébuleuse. Alors, quand on parle avec les ingénieurs ou avec les gens qui ont vraiment accès aux informations, ils disent, voilà, il manque un petit quelque chose et en gros, ça manquera toujours parce que voilà, il est quand même limité physiquement. Quand on le voit conduire à Abu Dhabi l'an dernier aux essais, par exemple, on constate qu'effectivement, il y a des virages où il doit céder de la paume de la main pour faire tourner le volant. Donc on est quand même dans un sport en millième de seconde, donc on est curieux de voir ça, mais on espère quand même, on est plein d'espoir parce qu'il a une telle détermination, une telle niaque, Robert, et un tel talent naturel qu'on espère qu'il va surmonter ça.
L'an dernier, George Russell, donc le nouveau coéquipier de Robert Kubica, a battu le tricoté Lando Norris pour s'adjuger le titre de champion de Formule 2. La Grande-Bretagne cherche un successeur à Lewis Hamilton. Est-ce que c'est lui le nouveau pilote Williams?
C'est peut-être lui, mais enfin, à nouveau, Lewis Hamilton, on n'en trouve pas tous les... Hein,
sous le sabot d'un cheval,
voilà. Mais non, ils sont très prometteurs. Il y a une belle génération de jeunes pilotes britanniques, notamment, et George en est un. Il a la tête bien faite, il a les pieds sur terre, donc je crois qu'il est bien parti. Maintenant, bon, il est chez Williams, donc malheureusement, il va être en dernière ligne et il va un peu ramer. Mais enfin, il va prendre la F1 par la face nord, et puis on verra comment il se comporte par rapport à Kubica, même même si voilà, on a ce doute toujours sur le vrai potentiel de Kubica, physiquement, je veux dire. Et voilà, mais Williams c'est quand même une équipe expérimentée, donc pour un rookie comme Russell, une ou deux saisons là, c'est pas plus mal. Il est quand même dans le giron Mercedes, donc s'il fait le boulot, il a une belle carrière devant lui.
On passe au pronostic. Williams, combien de points en fin de saison? C'était 7 l'année dernière.
Eh bien, je vais vous choquer peut-être, mais je vais dire 0 carrément.
Ah ouais.
Parce que je vois pas arriver dans le top 10. Vu le handicap de départ, vu la compétitivité des écuries de milieu de tableau, à la régulière, c'est vraiment pas possible, je pense, d'arriver en Q3 ou dans le top 10. Donc, je le remets carrément 0. Alors bon, c'est peut-être un peu sévère, on verra à la fin de l'année.
Deuxième équipe sous notre loupe, Toro Rosso. Faenza sert traditionnellement d'école à Red Bull. On l'a encore vu cette année puisque l'équipe mère a adopté le moteur Honda et Pierre Gasly. On a désormais l'impression que Toro Rosso n'a plus grand-chose à apporter finalement.
Oui et non, parce que c'est quand même une équipe B pour Red Bull et pour Honda.
Alors c'est un vote de plus dans les décisions importantes de la F1.
Entre autres, hein, c'est-à-dire c'est 20% de la décision au lieu de 10. Mais surtout, non, c'est surtout pour Honda en termes de data, hein, pour récupérer des données, croiser des informations, avoir 4 voitures en piste au lieu de 2, mais c'est non négligeable. Et voilà, Toro Rosso c'est aussi historiquement voilà le junior team, mais ça peut aussi servir de cobaye. Ils l'ont très bien fait en 2018 puisqu'ils ont vraiment permis à Honda d'accélérer le développement parce que voilà on a mis la fiabilité au second plan pour travailler la performance, mais c'est ce qui permet aujourd'hui à Honda d'arriver en position à peu près correcte pour Red Bull en 2019. Donc voilà, je pense que la Scuderia Toro Rosso a toujours eu cette vocation pour Red Bull et qu'elle la conserve.
Tout a changé côté pilote. D'un côté, on a un revenant, Daniil Kvyat. Alors, rédemption ou choix par défaut?
C'est un peu par défaut parce qu'effectivement, il y a dans la filière Red Bull, les autres pilotes sont un peu jeunes ou manquent encore de bouteilles, hein, comme Dan Ticktum, le jeune anglais qui a pas tout à fait les points pour la super licence. Bon, il a 19 ans, etc. Et puis Kvyat, quand même, il a pas été très bien traité par Red Bull. Il avait été peut-être promu un peu vite, il s'est un peu brûlé les ailes. Il a eu du mal à retomber sur ses pattes en revenant chez Toro Rosso. Donc moralement, il s'était un peu écroulé. Et finalement, l'année sabbatique dans le simulateur à Maranello chez Ferrari, ça lui a quand même apporté aussi une autre expérience. Et je pense qu'il a pris de la maturité. Donc, on connaît sa pointe de vitesse. Alors, c'est parfois un peu inégal, c'est parfois un peu fragile mentalement. Là, il peut plus louper. C'est last chance saloon, comme on dit.
Dans la deuxième monoplace, on a Alexander Albon qui a abandonné son volant en Formule 1 chez Nissan pour tenter sa chance. C'est l'invité surprise de la saison, en quelque sorte.
Oui, c'est un peu ça. Alors, c'est marrant parce qu'Alex Albon, un peu comme Kvyat, c'est un revenant dans le giron Red Bull parce que tous les deux étaient sous contrat Red Bull depuis 2012-2013 quand Kvyat a bien marché en Formule Renault Eurocup et puis que Red Bull l'a mis en GP3 et très vite il a été promu en F1 avec voilà les hauts et les bas qu'on connaît et Albon qui est donc à moitié thaïlandais par sa mère.
Donc on le rappelle, hein, la Thaïlande, c'est le deuxième pays de Red Bull,
voilà,
avec l'Autriche.
C'est l'origine de Red Bull. Hein, le produit vient de là. Et donc, symboliquement, c'était important pour dès l'instant où il y avait un pilote plus ou moins thaï, hein, plus ou moins, puisque il a quand même été élevé en Grande-Bretagne et il a fait ses classes en karting en Angleterre et en Europe. Mais bon, il avait été pris par Red Bull alors qu'il avait 15 ans, Alex Albon. Et puis, il avait été jeté comme un malpropre. On connaît la technique Helmut Marko, hein, c'est un peu les pilotes Kleenex. Hein, quand on s'en sert plus, on les jette. Mais Marko a aussi cette...
Oui, alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Brendan Hartley, l'année dernière, cette année, Alex Albon, Danny Kvyat, il pardonne maintenant
Oui, c'est pas
Marco,
non, c'est pas qu'il pardonne, c'est qu'il les connaît bien. Helmut Marko, c'est vraiment quelqu'un qui est sur le terrain, qui a toutes les infos, qui parle avec tous les team managers depuis le karting jusqu'à la Formule 2, et qui connaît vraiment, qui a vraiment, qui a tous les relevés de télémétrie, il peut disséquer les performances d'un pilote, et il leur parle et il les connaît, ils les font venir près de Salzbourg, là, dans leur centre d'entraînement physique, etc. Et donc, il fiche les pilotes. Et là, c'est pas par hasard s'il est allé rechercher Albon, parce qu'ils ont quand même dû racheter le contrat Nissan Formula E. Donc, c'est pas anodin. On verra.
C'était pas Sébastien Buemi, normalement, qui aurait dû être dans cette voiture.
Buemi, il a eu sa chance chez Toro Rosso. Il est toujours dans le giron Red Bull parce qu'il est pilote essayeur chez Red Bull Racing. Et Seb, il est quand même très occupé par ailleurs. Hein. C'est quand même le seul pilote qui est sous contrat avec trois constructeurs japonais différents.
C'est vrai.
C'est marrant. Toyota en WEC, Honda en F1 et Nissan en Formula E.
Alors, Toro Rosso, 33 points en 2018. Combien en 2019?
Alors, je vais leur donner 38, comme ça, un peu à vue de nez, parce que je pense que Kiat est capable quand même de saisir les opportunités quand elles se présenteront. L'auto a quand même pas mal marché. C'est une demi Red Bull, hein. Il y a quand même ce rapprochement puisque maintenant c'est moteur identique. Donc, tout le train arrière vient de chez Red Bull Technologies et ils échangent beaucoup d'infos sur les moteurs, mais je pense aussi sur d'autres éléments.
On se parle.
voilà. Donc, il y a quand même un potentiel. Maintenant, on verra ce que les pilotes en feront.
On va maintenant examiner les chances de l'écurie Alfa Romeo Sauber. Donc, Alfa Romeo Sauber et non plus Sauber Alfa Romeo.
Alfa Romeo Racing. Pour voilà. être précis.
Ah oui, c'est vrai que
ça, c'est le nom officiel.
Sauber. Voilà, ouais. Cette année, l'association entre la marque du groupe Fiat Chrysler va plus loin puisque le Bichon a pris le dessus sur l'écurie Helvète. Est-ce que ça veut dire plus de moyens pour les hommes de Frédéric Vasseur?
Oui, certainement. Plus de ressources, essentiellement financières, hein, et l'aide de Ferrari qui se renforce, quoi. Même si, finalement, Sauber, entre guillemets, Alfa Romeo Racing, reste une écurie cliente, mais voilà, vu le mariage avec Alfa Romeo, je pense qu'effectivement tous les moyens sont mis en œuvre pour faire briller la voiture. Et puis le job que Sauber fait depuis maintenant un peu moins de deux ans, sous l'impulsion de Frédéric Vasseur, mais aussi avec une nouvelle équipe technique, il y a Simone Resta qui vient de Ferrari. Je pense que ça, on a déjà vu déjà l'an dernier une progression assez surprenante, parce qu'en début de saison ils étaient quand même assez loin et ils ont une capacité de développement qu'ils avaient perdue depuis longtemps. Et voilà, avec Kimi en plus maintenant, ils ont de quoi faire.
Alors justement, Kimi, parlons-en. Kimi Raikkonen a prouvé en 2018. À presque 40 ans, il a encore une pointe de vitesse assez exceptionnelle. Est-ce qu'il peut refaire les mêmes performances que Charles Leclerc l'an dernier ?
Probablement, oui, et éventuellement mieux, parce qu'il a quand même une expérience considérable par rapport à celle de Charles l'an passé. Et disons qu'il a cette... Il n'aurait pas accepté le volant si c'était vraiment juste pour faire la saison de trop. C'est pas la mentalité de Kimi Raikkonen. Il a même, je pense, peut-être un petit goût de revanche par rapport à sa position chez Ferrari, à son statut chez Ferrari, où il était quand même un petit peu frustré. Alors bon, il ne doit s'en prendre qu'à lui-même, hein, parce qu'effectivement, notamment en qualif, il manquait toujours un petit quelque chose, mais il était toujours quand même très solide en course. C'est un pilote qui a non seulement de l'expérience, mais qui a une vraie vitesse de pointe. Donc, chez Sauber, ils peuvent s'appuyer sur lui et il va aussi être libéré, voilà, de la pression inhérente à la Scuderia. Donc,
la presse italienne qui commente chacun de vous.
Même si lui, il s'en fout. La presse italienne, il veut jamais ouvrir un journal. Mais bon, en attendant, il est à la maison chez Sauber. Hein. Il revient là où il a débuté. Et puis bon, c'est à une demi-heure de chez lui. Enfin, il est en famille. Donc, je pense qu'il va être en confiance et qu'il va prendre du plaisir. Et ça peut donner des résultats.
Alors, quelle place dans le dispositif pour Antonio Giovinazzi? Est-ce qu'il est déjà sous la pression de Mick Schumacher, qui est, on le sait, le troisième pilote, donc?
Oui, enfin, Mick n'est pas officiellement troisième pilote, mais il va sans doute faire des essais. Bon, maintenant, Mick, il faut d'abord qu'il fasse le job en Formule 2 et que tout le monde dans son entourage est debout sur les freins pour qu'on s'emballe pas trop vite. Mmh. Mais bon, voilà, je pense que Giovinazzi, au-delà de la pression de Mick Schumacher, c'est moi ce qui me frappe, c'est plutôt le syndrome des pilotes italiens. Hein, les pilotes italiens, ben, ça fait quand même 50 ans qu'on les voit plus, même 60 ans. Le dernier champion du monde italien, c'est Ascari en 1953. Et franchement, moi, j'ai eu beaucoup de bons copains parmi les pilotes italiens, les Alboreto, Patrese, Modena, enfin, Trulli, Nannini, etc. Mais il n'y en a pas un qui a vraiment fait preuve de, voilà, réuni l'ensemble des qualités nécessaires, non seulement pour gagner les Grands Prix, mais pour briguer un titre de champion du monde. Et là, c'est le désert depuis depuis Trulli Liuzzi, quoi, hein, physique est là, donc ça commence à faire beaucoup, et j'ai peur pour Giovinazzi qu'il retombe dans les mêmes travers.
Alfa Romeo Sauber, combien de points en fin de saison? C'était 48 l'année dernière.
De nouveau à la louche, mais je dirais 65, donc un peu plus, parce que Kimi, de façon régulière, je pense, il peut briguer une place dans le top 10. Bon, Giovinazzi peut-être moins, mais l'an dernier, Ericsson n'a pas mis énormément de points non plus, donc en moyenne, je pense que ça peut faire un peu mieux que l'an passé.
Force India est morte, vive Racing Point. L'ex-Jordan Midland Spiker porte désormais une licence canadienne après le rachat par un consortium mené par le richissime Lawrence Stroll. Ces dernières années, l'écurie a toujours surpris par ses performances, mais la nouvelle voiture s'est montrée assez discrète lors des essais d'avant-saison à Barcelone. Est-ce que les soucis financiers de l'équipe ont rejailli ?
Non, pas vraiment, parce que l'investissement a été conséquent depuis le mois de septembre, je dirais. Mais il y avait un retard à combler. Il n'y a pas de miracle. Hein. Il y a eu une restructuration. Les nouvelles ressources disponibles à partir de septembre-octobre, le temps de les mettre en place et le temps de retrouver un nouvel élan, ça prend un tout petit peu de temps. Même si l'équipe est très bien structurée, ils ont quasiment perdu personne dans la période quand même très incertaine de l'été dernier. Et c'est une équipe exceptionnelle dans le sens où elle a un rendement, un rapport qualité-prix qui est imbattable. Et ça, c'est grâce à une gestion extrêmement pragmatique. Otmar Szafnauer, hein, le team principal, c'est un Américain avec un background assez vaste. Et il est vraiment remarquable en gestion et en tant que meneur d'homme, au même titre que Andrew Green, le directeur technique, hein, qui est là depuis toujours chez Jordan. Je me souviens, il était là avec Bertrand Gachot en 1912.
Et 91.
et Andy, il a cette expérience et il a aussi cette capacité de déléguer, de laisser les bonnes personnes aux bonnes places faire leur job, tout en gardant, en ayant une bonne compréhension de la globalité du travail. Donc je pense qu'ils peuvent vraiment bien faire, même si ils ont subi quand même un petit coup dur l'été dernier, et qu'il faut retrouver un élan, mais ça devrait pas tarder.
L'un des secrets de cette équipe, c'est qu'elle externalise beaucoup, en fait, comparé à Williams ou McLaren qui fabriquent tout, même les extincteurs.
Oui,
eux ont une culture d'externalisation.
Depuis Eddie Jordan en 91, ça a toujours été comme ça, parce qu'il y a quand même beaucoup d'expertise dans cette région de l'Angleterre, hein, la fameuse Silicon Valley de la F1, hein, le Triangle d'Or, Oxford, Northampton, Londres. Et ils ont toujours fait ça en comptant justement sur des fournisseurs qui sont très pointus et qui font le boulot. Alors c'est vrai qu'ils ont parfois cette période d'assemblage, de conception, de construction, d'assemblage de la voiture, c'est parfois un peu plus laborieux parce que il y a des délais, il y a parfois des, on l'a vu avec Williams cette année, mais Force India a souvent été un peu en retard dans les années précédentes, aussi pour des raisons financières, naturellement. Donc là, on va voir. Ils étaient un petit peu en vrac à Barcelone, mais j'ai confiance en eux parce que ils ont aussi une capacité de développement pour une équipe de milieu de tableau, une équipe pas très, jusqu'à présent pas très bien financée. Ils étaient capables de développer en cours de saison, ce qui n'est pas toujours le cas des teams de la deuxième moitié de la grille.
Lawrence Stroll étant parmi les propriétaires, nous sommes moyennement surpris de retrouver Lance Stroll, son fils, dans l'une des deux voitures roses. Il peut plus se cacher, là, c'est fini.
Oui, bien sûr. Alors bon, c'est sa troisième saison de F1. Il a fait les collages chez Williams, justement, notamment moralement l'an passé. Je crois que ça a été assez pénible, hein, mais il a quand même montrer des signes d'un certain brio, hein, en certaines circonstances, peut-être plus il y a 2 ans que l'an passé, mais il a fait ce podium
en Azerbaïdjan
à Bakou, et puis sur le gras mouillé à Monza, il sort une première ligne de derrière les fagots, donc c'est pas un bras cassé, quoi, Stroll. Alors c'est vrai que c'est le fils à papa, c'est tout ce qu'on peut imaginer par rapport à ça, mais c'est un travailleur, c'est un gars qui en veut. C'est sûr que là, avec Perez en face, il y a une forme de reality check, quoi. On va voir un peu où il se situe, parce que jusqu'à présent, on n'avait jamais vraiment pu l'évaluer complètement. Ici, bon, Perez, c'est quand même un cador.
Oui, surtout opportuniste, assez rude et toujours au bon endroit ou au bon moment.
C'est quelqu'un qui fait très peu de fautes, qui concrétise les résultats. Il est très précieux chez Racing Point. Et Checo, je pense que lui, il sait maintenant que rejoindre un top team, ça s'éloigne un peu. Donc, il fait sa carrière, mais il veut quand même prouver que c'est lui le patron. Donc, avec le fils du patron dans les pieds, il va devoir mettre les gaz.
Alors, Racing Point, combien de points en fin de saison? L'exercice est un peu biaisé. J'ai mis 52 l'an dernier, puisque les résultats n'ont compté qu'à partir du Grand Prix de Belgique. Ça donnerait quoi cette année?
Alors, moi, j'ai mis 87, ce qui devrait les situer à peu près au milieu du classement. Donc, c'est moins que ce qu'ils ont en réalité marqué l'an passé. Mais bon, l'an passé, ils avaient une bonne auto. Ils avaient deux pilotes qui se sont vraiment tirés vers le haut, hein. Ils se sont tirés la bourre, oui, mais il y avait quand même une émulation entre eux qui était, je pense, bénéfique à l'équipe, même s'il y a eu parfois quelques points gâchés ou envolés. Voilà, mais ça va être tellement compétitif en milieu de peloton que ils ont quand même été quatrième deux années de suite. Ça va être dur quand même de se maintenir à ce niveau-là parce que la concurrence est organisée depuis.
On passe à l'instant papaya, puisque nous allons parler de McLaren. L'an dernier, l'écurie de Zak Brown a réussi à nous démontrer que Honda n'était pas responsable de tous les malheurs du monde, en réalisant une monoplace très instable qui a poussé Fernando Alonso vers la sortie. C'est grave, Dr. Van Vliet?
Bon, c'est incurable peut-être, hein. C'est un peu le même problème que chez Williams. Alors, par rapport à Williams, il y a plus de ressources chez McLaren, plus de moyens. Il y a un outil exceptionnel, McLaren Technology Center. Et bon, Zak, il a quand même aussi une vision un peu à l'américaine, où il a effectivement été débauché des pointures pour remettre le navire à flot. Cela dit, ça va prendre du temps, parce que il y a Andreas Seidel qui arrive de chez Porsche, mais qui a une grosse expérience de la F1 auparavant avec BMW Sauber. Et puis évidemment James Key qui est un des ingénieurs les plus brillants de la jeune génération, hein, parce qu'il a c'est un quadra James. Mais bon, ils arrivent presque en cours de saison là, parce que je pense que Seidel il sera même pas en Australie et James encore moins. Donc du coup bon ben c'est plus sur la voiture de 2020 ou voire même 2021 avec les perspectives du nouveau règlement que McLaren se focalise. D'ici là, ben il faut sauver les apparences. Et je suis pas très enthousiaste.
Carlos Sainz a été recruté pour mener les efforts de McLaren. Le pilote espagnol a-t-il l'envergure suffisante pour cette mission?
Alors moi je suis pas sûr, Carlos Sainz. Je dirais the jury is out, comme on dit en anglais. Alors il a montré aussi qu'il avait du talent, hein, c'est certain. On l'a vu face à Max Verstappen quand même. C'était pas n'importe quoi. Il a pas été ridicule du tout, même si voilà sur le mental il a un tout petit peu craqué. Et puis l'an passé je trouve qu'il a pas été très spectaculaire. Donc chez McLaren il a maintenant une vraie responsabilité. Il est premier pilote, il doit endosser le costume. Est-ce qu'il a la carrure? On va voir.
Norris est-il surcoté? Donc c'est son nouvel équipier qui vient de la Formule 2.
Alors possible. Vous savez qu'il est très jeune, qu'il a eu une ascension météorique, bon facilité aussi par un environnement très favorable financièrement. Il est managé personnellement par Zak Brown depuis déjà 2 ou 3 ans, donc on peut se demander tout à fait s'il n'y a pas eu conflit d'intérêt dans le recrutement de Norris. Alors il marche, hein, quand on le met dans l'auto, il a cette fougue, cet enthousiasme de la jeunesse. Maintenant il va falloir canaliser tout ça, parce qu'on a vu en F2 l'an dernier par exemple qu'il était quand même assez irrégulier, et que voilà, par rapport à un Russell ou même avec Albon en fin de saison, ben, il tirait un peu la langue. Voilà, je trouve que c'est un peu faiblard chez McLaren, un duo de pilotes comme ça qui sont à la fois très jeunes avec peu d'expérience et une auto dont on sait que voilà, elle est loin du compte.
Et loin le temps où ils se battaient tous pour un volant chez McLaren.
Ben, c'est un peu pareil avec Williams, hein, donc voilà. Ce sont un peu les dinosaures de Jurassic Park de la F1. C'est des modèles économiques du 20e siècle et ça marche plus.
McLaren, combien de points en fin de saison? C'était 62 l'an dernier.
Eh bien, je vais être sévère. Là, je vais diviser par 2. Ça va être 31, ce qui va les mettre 9e au championnat, juste devant Williams. Pas mieux.
Vous le savez peut-être, F1 est désormais partenaire avec le magazine Automoto. Si les voitures de série vous intéressent également, vous pouvez découvrir tous les 15 jours nos débats et nos interviews dans le podcast Automoto. Quelle voiture choisir pour 10 000 euros? Faut-il acheter un véhicule électrique? Quel est notre avis sur les nouveautés automobiles? Rendez-vous sur automoto.com et sur votre plateforme podcast préférée. Pour vous abonner, vous entendrez C'est sympa. Après avoir été la révélation de la saison 2018, l'écurie américaine Haas a reçu l'aide d'un nouveau sponsor. Bon, on attend toujours de voir les canettes.
Taylor is rich.
Ouais. Est-ce que le partenariat entre Sauber et Ferrari n'est pas une mauvaise nouvelle pour Jean Haas?
Je crois pas, parce que finalement la situation ne change pas. Alors on a parlé d'Alfa Romeo, du fait que il y aurait des ressources supplémentaires, mais c'est plus des ressources financières ou humaines. Sur le plan technique, a priori, il y a rien qui change. Mais la Haas, comme la Sauber entre guillemets Alfa Romeo, bénéficie quand même de la motorisation Ferrari, mais aussi de tous les accessoires qui vont avec, la transmission, enfin tout le train arrière, même les suspensions, etc. Enfin, tout ce qui est permis, hein, puisque Haas, le modèle économique est quand même très pointu, tout ce qui est autorisé par le règlement, ben c'est copier-coller de chez Ferrari. Et il y a vraiment que le minimum syndical qui est produit par Dallara en plus, hein, même pas par Haas. Donc Haas se contente d'assembler, voilà, et de faire un peu de finition. Mais on sait que c'est un modèle qui fonctionne parce que les résultats sont là et sont quand même impressionnants sur leurs trois premières saisons. Ils sont d'emblée installés en milieu de peloton. Alors ça fait jaser évidemment, puisqu'il y a des équipes qui tiquent un peu par rapport à ce modèle économique. On peut considérer que Günther Steiner, le team principal de Haas, hein, c'est lui qui a eu cette idée. Ben il s'est un peu engouffré dans une brèche, dans une zone grise du règlement qui avait un peu échappé à notamment aux célèbres dinosaures, hein, qui eux, pour arriver à produire une voiture d'un niveau de performance équivalent, vont sans doute dépenser le double. Donc voilà, si le règlement le permet, bien joué à Haas.
Romain Grosjean et Kevin Magnussen sont équipiers pour la troisième année consécutive. Que penser de ces deux-là ?
Alors ces deux-là, ils ont tendance un peu, je trouve, à se neutraliser. C'est-à-dire, on a un peu de mal à savoir s'ils ont vraiment le petit quelque chose. Alors Romain, on sait que il a la vitesse, hein, il l'a toujours eu. Hein, sur un tour, Romain, il peut être éblouissant, parfois sur une course aussi, mais il a souvent du mal quand même à avoir cette constance.
Fait quelques petites bêtises,
voilà,
parfois.
Et avec presque 10 ans d'expérience en F1 maintenant, il continue à faire parfois des grosses bêtises. Et alors on sait qu'il se prépare psychologiquement, etc., qu'il se soigne, c'est un type intelligent, Romain, donc il essaie de mettre tous les atouts dans son jeu. Mais moi, avec Magnussen aussi, je suis un peu dans l'inconnu, et je n'ai pas l'impression qu'on va avoir la réponse, parce que Grosjean, Magnussen, c'est un peu équivalent, et en F1, il faut tuer son équipier, quoi. Et c'est là qu'on fait la différence, c'est là qu'on voit que on a quelque chose de plus. Et là, c'est pas le cas. Ça fait quand même 2-3 ans qu'ils se neutralisent. Effectivement, il y en a pas un qui prend le dessus. Et donc, pour Haas, bon, peut-être que ça leur convient comme ça. Et c'est vrai qu'ils ramassent quand même des points. Mais j'aurais aimé, voir un autre pilote, voir Haas prendre peut-être un risque sur ce terrain-là.
Alors, 93 points en 2018, combien cette année ? Alors,
je vais leur mettre un peu moins, mais pas beaucoup moins. Je vais leur mettre 85, mais c'est plutôt 6e au championnat constructeur que 5e comme cette année, même si c'était un peu biaisé par la situation de Force India Racing Point.
En 2016, lorsque Renault était revenu en F1, l'objectif était de gagner dans les 3 ans. Aujourd'hui, les jaunes semblent encore loin des top teams. Pierre, tu t'attends à un grand bond en avant cette année ?
Oui et non, c'est-à-dire des progrès certainement, mais cette 4e place qu'ils occupent depuis cette année, plus ou moins à la régulière, même si Force India aurait pu la revendiquer en 2018, la progression a été significative l'année dernière, donc cette 4e place n'est pas volée, mais l'écart par rapport aux 3 premiers est vraiment gigantesque. Alors, je pense qu'ils vont réduire cet écart dans une certaine mesure. Dans quelle mesure, c'est une autre histoire. Et est-ce qu'ils pourront le faire suffisamment pour ne pas sentir le souffle dans leur dos de Haas, de Racing Point, de voire d'Alfa Romeo, c'est une autre question. Mais bon, les structures sont solides. Il y a quand même beaucoup de talent à Enstone. On a vu que voilà maintenant sur la motorisation, il semblerait qu'enfin à Viry-Châtillon, on est réduit l'écart de façon sérieuse, même si on dit ça depuis 5 ans et qu'on croit que ça va venir et puis que ça vient pas vraiment, on va être vite fixé, hein. Mais c'est vrai que à Barcelone, ils étaient là. Maintenant, voilà, ils terminent le best of the rest, comme on dit, le 7e en F1, ils terminent à plus d'un tour, parfois du 6e. Donc c'est un écart énorme à combler et ça va pas se faire en un claquement de doigts.
La surprise du marché des transferts, c'est l'arrivée de Daniel Ricciardo à Enstone. Peut-il faire la différence et offrir la première victoire aux losanges depuis 2008?
Alors oui, il en a le, le potentiel, bien sûr, il a déjà prouvé, hein, c'est un vainqueur de Grand Prix, mais pas en 2019. En 2019, à la régulière, Renault peut pas gagner, peut pas revendiquer la victoire. Déjà, le podium, ça va être dur, donc gagner, ce serait une circonstance exceptionnelle ou voilà, une histoire de fou. Mais Daniel Ricciardo, il apporte à Renault quand même maintenant, là, alors c'est cher payé parce que il a bien négocié, mais il apporte à Renault maintenant, voilà, la certitude d'avoir un pilote du top niveau, un pilote qui s'est mesuré au meilleur et qui a fait quasiment jeu égal ou dans certains domaines un peu mieux parfois que la référence Verstappen ou que Sébastien Vettel à l'époque. Donc et Ricciardo, il a aussi cette énergie et je pense qu'il va vraiment être la locomotive pour Renault. Il va peut-être faire sortir le petit grain de génie qui dort chez Hülkenberg depuis quelques saisons. Donc avec deux pilotes de ce niveau-là, Renault va marquer des gros points et va être là. Mais pour moi, c'est une quatrième place et sans doute pas mieux.
Justement, Hülkenberg, c'est un petit peu un mystère quand même. Ce garçon, ça fait quand même beaucoup d'années qu'il est en F1, que tout le monde le trouve très bien, mais il manque pour l'instant un résultat.
Oui, toujours pas de podium, hein. Je crois que c'est 105 ans au Grand Prix ou un truc comme ça. Alors, on connaît quand même à peu près, je trouve, ses limites. Parce que on a pu le comparer à Sergio Pérez chez Force India pendant deux ou trois saisons. Et de nouveau, là, il a pas vraiment pris le dessus. Alors, dans certaines circonstances, il était plus vite, dans d'autres moins. En qualif un peu mieux, en course un peu moins, etc. Mais il a pas vraiment assommé Pérez. Alors, Hulk, on sait que c'est du solide, hein. C'est un casque à pointe, hein. Ça rigole pas. Il a gagné Le Mans avec Porsche. Enfin bon, ça c'est plutôt anecdotique, mais moi je me souviens de ses débuts chez Williams quand il fait cette pole à Interlagos, etc. Donc, si les circonstances sont là, le gars il a le car control, il a les capacités pour sortir un gros résultat. Est-ce qu'il est capable de se transcender? On va le voir, parce qu'avec Ricciardo en face, on va savoir effectivement de quel bois il se chauffe.
Combien de points pour Renault en fin de saison? C'était 122 l'année dernière.
On va leur en mettre un peu plus, hein, parce que c'est vrai qu'ils ont un tandem de pilotes solide et expérimenté. Donc, on va leur en mettre 142 points. Mais bon, ça fait toujours que quatrième et toujours assez loin du troisième.
Chez Red Bull, on n'a pas remporté de titre de champion du monde dans l'ère hybride. Et à Milton Keynes, on a longtemps mis ça sur le dos de Renault. Du coup, les monoplaces austro-britanniques sont désormais propulsées par un moteur Honda. Est-ce un bon coup, Pierre Van Vliet?
C'est un coup de poker, on va dire, parce que voilà, c'est sûr qu'avec Renault, ils avaient fait le tour et que la situation s'était vraiment plombée de plus en plus. Alors, on peut regretter la manière dont Red Bull a eu tendance à charger la mule, mais il y avait une frustration chez eux. Il y avait un vrai sentiment d'être piégé, parce que voilà, on connaît les qualités d'Adrian Newey et de toute son équipe Red Bull Technologies. Ils ont un châssis qui est, voilà, chaque fois qu'il y a un circuit où le moteur compte un peu moins, ben la Red Bull était devant. Donc ça démontre quand même que ils avaient des raisons de se plaindre, disons. Alors la manière, il était peut-être pas les plus élégants, on va dire, dans le comportement. Red Bull a aussi cette attitude, hein, agressive, de volonté un peu hégémonique ou un peu voilà. Maintenant, avec Honda, ben ils ont pris un risque, mais ils l'ont quand même anticipé avec Toro Rosso, et je pense qu'ils savent ce qu'ils font. En même temps, quand je dis coup de poker, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que si sur 2019 et a fortiori 2020, Verstappen, Red Bull, Honda, ça ne gagne pas, il n'est pas exclu que Dietrich Mateschitz, le big boss, tire la prise et que peut-être qu'ils revendent
à quelques consortiums.
Oui, ou qu'ils revendent le bébé Honda, par exemple. Ce serait pas la première fois que Honda se fait avoir dans ce genre de manœuvre. mais Red Bull pourrait aller ailleurs, quoi. Ils n'ont pas besoin de la F1. Red Bull n'a plus besoin de la F1. C'est parce que Mateschitz est un vrai passionné, parce qu'Helmut Marko est le copain de Mateschitz, parce que Christian Horner est un très brillant manager. Que ça continue, mais il pourrait s'en passer. Donc Honda doit être à la hauteur. On va être fixé assez rapidement, je crois.
Alors Verstappen, on saute tous sur nos chaises comme des cabris en disant Verstappen. Il lui manque quoi encore pour viser le titre?
Peut-être un cerveau. Non, je plaisante, je veux pas être trop dur. Il a jamais que 21 ans, hein, Max, on se rend pas compte. Mais alors, c'est vrai que c'est 4 saisons de F1, etc. Mais il manque quand même encore un peu de maturité, d'expérience. Et alors, je pense qu'il y a cette attitude qui est encouragée presque par Red Bull, hein, cette arrogance, un peu l'excès de confiance. Il est persuadé qu'il est le roi du pétrole. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que en vitesse pure, il est exceptionnel. En combat rapproché, il ose tout. Parfois en prenant le risque de trop, hein, on l'a vu avec Esteban Ocon au Brésil en fin de saison dernière. Donc voilà, Max, est-ce que c'est Mad Max ou est-ce que c'est Super Max? Ben c'est à lui de nous le montrer cette année, en espérant que la Red Bull Honda soit à la hauteur. Pour que ce qui est bien pour la F1, c'est que voilà, en principe, on a un troisième acteur pour jouer, sinon le titre, au moins la gagne, et que donc entre Ferrari, Mercedes et Red Bull, on a vraiment un match à trois pour le championnat.
Est-ce que Pierre Gasly va enfin faire résonner la Marseillaise après 23 ans sans victoire française en F1?
Alors pas tout de suite, hein. Ce sera peut-être 24 ou 25 ans de patience, parce que Pierre, il est très doué, il est très travailleur, c'est un mec vraiment bien qui a une chance là. Il est conscient que il a peut-être été promu aussi par défaut, hein, puisque le départ de Ricciardo n'avait pas vraiment été anticipé par Red Bull. Donc à lui de saisir cette chance. Maintenant avec Verstappen en face, c'est vraiment un étalon, ça met la barre très très haut. D'un côté, il n'a pas grand-chose à perdre, évidemment, parce qu'on va considérer normal qu'il soit peut-être un peu dans l'ombre de Verstappen, mais il ne pourra pas y rester trop longtemps, ou en tout cas, il devra briller par moment. Alors, il est un peu parti du pied gauche à Barcelone avec deux gros cartons. Maintenant, ça peut arriver, mais c'est vrai que ça ébranle un peu la confiance, donc il va falloir qu'il se pose un peu en début de saison, Pierre, et qu'il exploite l'auto le mieux possible, ce dont il est capable, je n'en doute pas.
Combien de points finalement pour Red Bull en fin de saison? C'était 419 l'année dernière.
Je vais le remettre un peu moins, du genre 381, ce qui va pas tout à fait changer leur vie, mais parce qu'en fiabilité, je pense qu'ils seront quand même un peu moins bien, même si avec Renault, ils n'étaient pas toujours les mieux lotis l'an dernier. Mais voilà, et puis bon, Gasly va peut-être pas mettre autant de points qu'un Ricciardo l'an passé, je veux dire sur l'ensemble d'une saison, c'est pour ça que je le remets un peu moins, mais c'est quand même solide, surtout quand on considère que les points marqués par le moteur Honda depuis 4 ans, hein, ça doit faire le quart de ça, donc good luck.
La nouvelle Ferrari SF90 a été très rapide lors des essais privés à Barcelone. C'est enfin la bonne année pour la Scuderia?
Alors 2019 ou 2020, selon l'apport de Mattia Binotto dans ce nouveau rôle, selon la gestion ou l'évolution, disons, de la paire Vettel-Leclerc, ça c'est quand même la grosse inconnue de cette année 2019. Hein, c'est la formidable promotion de Charles Leclerc quand même chez Ferrari, excusez du peu, avec une auto qui est au-dessus du lot. Hein, on a vu à Barcelone que voilà, dès l'instant où on a mis les quatre roues par terre, Elle marche du feu de Dieu, alors que Mercedes se cherche un peu, que Red Bull, voilà, avec le moteur Honda, ils sont pas encore tout à fait là. Donc pour Charles, c'est extraordinaire de débarquer dans une équipe avec une auto qui est potentiellement la meilleure, en tout cas qui est un package gagnant. Alors après, ça va jouer sur peu de choses, et notamment voilà pour Ferrari la gestion humaine. Ça se passait pas très bien avec Maurizio Arrivabene. C'est pas par hasard quand même qu'il a été débarqué. Binotto a mis sa tête sur le bio. Il a dit c'est lui ou moi, quoi, carrément. Et puis ils ont tranché celle d'Arrivabene. Et voilà. Donc maintenant Binotto et son équipe il a quartier libre, enfin il a les mains libres, c'est à lui d'assumer, hein. Il a pas 50 ans, hein, Binotto, c'est un jeune jeune, oui, avec quand même 25 ans de maison,
de mais F1 c'est derrière lui,
oui, mais c'est quelqu'un de très brillant, c'est un professeur tournesol comme ça, mais qui a une intelligence supérieure, et on va voir au-delà du domaine technique, on va voir comment il manage, comment il gère une équipe qui est quand même la plus bouillonnante du paddock.
Oui, parce que c'est ça en fait vraiment le problème de Ferrari ces deux dernières années. La monoplace était là, mais l'exploitation était peut-être pas au niveau.
Voilà, mais Binotto, il a ce côté, c'est un Suisse, hein, c'est pas vraiment un Italien, c'est un Suisse. Il a fait toute son éducation en Suisse. Il est de Lausanne. Et bon, alors outre la neutralité suisse, il a cette capacité d'analyse. Il va pas se laisser, je crois, trop influencer par les titres de la Gazzetta dello Sport du lundi. Et il est conscient que Vettel, c'est quand même effectivement le meilleur atout de la Scuderia jusqu'à preuve du contraire. Hein. Et donc, il va essayer de mettre Vettel en confiance, sinon de le protéger. Mais évidemment, Leclerc, il n'y a pas de raison non plus de le brider. Donc, les premiers résultats vont être importants psychologiquement. Je dirais les premières séances qualif des trois premiers Grands Prix vont donner un peu la tendance.
Question un petit peu provocante, est-ce que Sébastien Vettel est brisé?
Eh bien, on va le savoir. Moi, je pense pas, même si la saison en fait est très éprouvante pour lui, avec des petites erreurs au mauvais moment, de la malchance aussi, hein, parce qu'il y a quand même un manque de réussite dans certaines circonstances. Je pense à la sortie de route à Hockenheim, par exemple. Il ouvre la piste, quoi. Il est en tête et il a 20 secondes devant. Et il se prend les premières gouttes d'eau, voilà. Et là, le point de freinage pour un virage qui est pas très 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 spécial, ça se joue sur rien. Et un blocage de roue là, par contre, hein, ça coûte cher parce que voilà, c'est un virage à l'ancienne et il y a des graviers autour. Et le pauvre Seb, il perd le grip et il se retrouve à deux à l'heure dans les barrières. C'est la honte, quoi, hein, dans le stadium chez lui. C'est le Grand Prix d'Allemagne, il est en tête, il va faire le jackpot, les 25 points au tournant du championnat, et là il se prend le ciel qui lui tombe sur la tête. Alors il a plus ou moins bien réagi, mais on a senti quand même qu'il a souffert. La gestion du team opérationnel, je dirais, a parfois un peu laissé à désirer. Hein. On se souvient de Monza, par exemple, la gestion des qualifs qui a permis à Kimi d'être en pôle. Finalement, en plus, samedi soir, on explique à Kimi qu'il reste pas chez Ferrari. Donc, le lendemain, on peut pas dire qu'il sert la soupe.
Il fait pas des cadeaux, voilà.
On peut pas dire qu'il sert la soupe à Vettel. Et là aussi, il y a un manque de réussite de Vettel parce que la touchette avec Hamilton à la deuxième chicane, là, ben, ça peut être Hamilton dans le bac et Vettel qui continue. Hein. Donc, ça se joue, voilà, sur peu de choses. Donc, Vettel, bon, il a un niveau exceptionnel, il a cette conscience de ses capacités. Maintenant, il doit effectivement, il a tous les outils en main là, et il peut pas se permettre de pas concrétiser, de pas transformer l'essai, parce que l'an passé, il sait qu'il a quand même laissé passer une chance de titre, le premier. Quintuple champion du monde après Fangio, Schumacher, finalement c'est Hamilton et c'est pas lui, hein, ça jouait entre eux. Donc là, il a pas d'excuse, il doit vraiment concrétiser, ce qui lui met peut-être une pression supplémentaire aussi. Donc tout va dépendre un peu de ce qui se passe de l'autre côté du garage.
Alors justement, on y va dans l'autre côté du garage. Charles Leclerc, il y a un an, il arrivait en Formule 1 en fond de grille. Est-ce qu'il va être champion du monde pour sa deuxième année en F1?
Alors c'est très ambitieux, mais c'est pas exclu parce que il est bon, 21 ans nouveau, mais la tête vraiment bien faite, il a eu un cursus impressionnant, il est bien entouré, il a très bien préparé sa promotion chez Ferrari, parce que c'est anticipé quand même depuis de nombreux mois, même si, et en plus depuis des années, parce qu'il est dans la Ferrari Drive Academy, donc il est un habitué de Maranello, et c'est sur le simulateur de Maranello qu'il semblerait qu'ils aient fait le choix de Leclerc plutôt que Giovinazzi, par exemple. Il y a Nicolas Todd qui est là, qui connaît quand même très très bien la maison. Et puis Charles, il a ce talent naturel et une énorme capacité de travail, une humilité qui en fait peut-être le futur grand champion de la F1. Donc pour nous, c'est formidable, évidemment, d'avoir un francophone, hein, un monégasque certes, mais qui arrive chez Ferrari par la grande porte. Un peu, peut-être même davantage que Gasly avec Red Bull, parce que c'est pas une promotion par défaut, hein, c'est un choix volontaire de la part de Ferrari de promouvoir Leclerc. Donc si, voilà, il n'a pas grand-chose à perdre, s'il est à 3-4 dixièmes de Vettel, on va pas crier au scandale, mais je pense qu'il va être sans doute plus près, et que comme il a une auto, voilà, pour gagner, si sur les deux ou trois premiers Grands Prix, je crois vraiment que le début de saison va être capital psychologiquement pour les deux hommes, hein, mais s'il arrive à prendre le dessus sur Vettel, ou s'il gagne une course sur les deux ou trois premiers Grands Prix, ben là, il va être lancé, il aura le vent dans le dos, et on se demande qui pourra l'arrêter.
C'est un petit peu l'anti-Verstappen, en fait, Charles Leclerc.
Oui, enfin bon, il faut pas non plus comparer des pommes et des poires, mais mais c'est vrai que pour moi, il est plus complet que Verstappen, il est sans doute plus rassurant. Je vous parle de cette humilité, alors qu'on parlait plutôt d'arrogance pour Max. Voilà, non, Charles, il est vraiment dans un environnement idéal, donc à lui de jouer.
Combien de points pour Ferrari en fin de saison, sachant que c'était 541 en 2018?
On va leur en mettre plus, hein. On va leur mettre au moins 10% de plus. Moi, je verrais 620 points dans ces zones-là. Parce que c'est la meilleure auto du plateau et c'est, voilà, un duo de pilotes qui va peut-être monopoliser les premières lignes de la grille et les podiums, en tout cas dans la première moitié de la saison.
On passe au champion du monde sortant. Les nouvelles flèches d'argent se distinguent de leurs adversaires par leur choix technique. On a un empattement rallongé, on a le rake qui est plus faible que sur les autres voitures. Les W10 ont été très discrètes à Barcelone. L'équipe Mercedes s'est-elle cachée ?
Oui, est-elle enfermée dans une impasse technique ou s'est-elle un peu égarée ? Moi, je dirais les deux, mais en général, c'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que leur approche de nouveau règlement aérodynamique, les ailerons avant, etc., est différente de celle empruntée par Alfa Romeo et puis par Ferrari. Et donc, on se rend compte que l'auto est moins stable, voilà, qu'elle a... Elle était un peu moins directionnelle, un peu moins solide sur ses quatre roues comme ça. Alors bon, Hamilton a sorti un chrono en fin de séance à Barcelone pour être dans le millième quasiment de Vettel, enfin entre les deux Ferrari, mais dans un mouchoir de poche. Donc ça veut pas dire grand chose si ce n'est qu'Hamilton. Voilà, il faut compter sur lui parce que à Melbourne, moi je mettrais même un billet sur Hamilton en pôle parce qu'à Melbourne il est encore plus exceptionnel qu'ailleurs. Ça fait 3 ou 4 ans qu'il fait la pole, et qu'il fait la pole avec plus d'une demi-seconde sur son propre équipier, que ce soit Nico Rosberg ou Valtteri Bottas. Donc voilà, le facteur Hamilton peut être décisif, en tout cas sur des circuits comme Albert Park à Melbourne, mais la Mercedes est un petit ton en dessous, donc début de saison sera peut-être un peu plus laborieux pour les flèches d'argent, mais attention, hein, ils ont cette capacité de réaction. Toto Wolff a tout de suite compris qu'il fallait faire quelque chose, et je pense qu'à Brackley, on met les bouchées doubles, donc Mercedes devrait être au niveau, on devrait avoir un très très gros duel cette saison entre les deux top teams.
Malchance au début 2018, absent carrément en fin de saison. Valtteri Bottas sort d'une saison difficile. Est-ce qu'il peut rebondir ?
J'ai envie de dire qu'on le saurait déjà, parce que les années précédentes ne donnent pas vraiment les bons indicateurs pour Bottas. C'est un très bon pilote, hein, mais bon, quand on a Lewis Hamilton comme voisin de garage, c'est très très dur. C'est très très dur de, même en donnant le meilleur de soi-même, ce qu'il fait, hein, Valtteri, parce que dans certaines circonstances, il parvient à être tout près de Hamilton. Hamilton n'a plus vraiment ces petits creux comme ça lui arrivait. Il y a encore 2 ou 3 saisons, il n'a plus parfois de week-ends où il était un peu absent, un peu off. Il semblerait qu'il ait trouvé vraiment maintenant un équilibre de vie qui lui permette vraiment de tirer la quintessence de son immense talent chaque fois qu'il monte dans l'auto. Il a toujours faim, etc. Donc pour Bottas, c'est mission impossible quelque part. C'est mission impossible. Et puis c'est dur moralement. On a vécu ça dans d'autres circonstances, hein, avec des pilotes. Je vais prendre un exemple qui est peut-être pas celui qui saute le plus aux yeux, mais parce que je les connaissais bien, par exemple David Coulthard avec Mika Hakkinen, il était aussi tout près, mais il disait c'est très dur moralement de voir le team sauter de joie parce que j'étais en pôle et que c'est l'autre voiture qui fait la pôle et que tout le monde est content. C'est un peu, je pense, le genre d'atmosphère qui règne dans l'équipe Mercedes aujourd'hui. Donc pour Bottas, dur. Et puis bon, il y a Esteban Ocon en réserve de la République et... Voilà, il faut pas être clair de noter pour imaginer que Wolff a déjà son plan et qu'en 2020, si Bottas ne sort pas vraiment une saison exceptionnelle, ben il sera plus là.
À tout seigneur, tout honneur, on termine avec le champion du monde sortant, Lewis Hamilton. Est-il le favori pour se succéder à lui-même ?
Alors sans doute, mais ça ne dépend pas que de lui, parce qu'effectivement, déjà en 2019, Mercedes n'avait pas cette suprématie affichée les années précédentes. Ferrari avait fait le boulot, et Ferrari, d'abord avec le moteur en 2017 déjà, et puis avec l'ensemble du package, on peut dire que la Ferrari était sans doute sur l'ensemble de l'année la plus performante. Alors, il y a certains circuits où c'était davantage davantage l'une que l'autre, mais voilà, et on sait que Vettel n'a pas tout à fait concrétisé dans certaines circonstances, que Hamilton a été soit chanceux, soit exceptionnellement brillant en d'autres circonstances, ce qui a fait la différence au final. Ici, on va voir sur les 3-4 premiers Grands Prix aussi, si la Mercedes est vraiment un ton en dessous parce qu'ils sont quelque peu loupés en aéro, bon, ils ont les moyens de revenir et de mettre le doigt sur ce qui va pas, etc. Mais déjà l'an passé, hein, Lewis disait la voiture c'est une diva, on n'en fait pas tout à fait ce qu'on veut, elle est capricieuse, difficile à régler, elle chauffe les pneus, enfin, pas facile, alors que chez Ferrari, voilà, Charles par exemple, il avait la banane tout de suite parce que lui dit l'auto, ben l'auto est facile quoi. Alors ça change tout, franchement, quand on est en Q3 et qu'on doit aller chercher les derniers millièmes, ben, si on a une auto qui fait la moitié du boulot, c'est déjà ça. Cela étant, c'est sûr qu'un Charles Leclerc, par exemple, il lui manque encore cette expérience pour aller chercher le dernier carat, mettre les trois secteurs ensemble en Q3, etc. Alors qu'Hamilton, on sait que c'est à ce moment-là que, qu'il est capable de se transcender, ce qui est le cas de Vettel aussi, d'ailleurs. Donc, et qu'on connaît l'importance aussi des positions sur la grille aujourd'hui. Donc, on saura assez vite si Hamilton peut résister à la montée, à la marée rouge, même si l'Australie ne sera pas vraiment significative à cet égard. Il faudra attendre Bahreïn et la Chine pour y voir plus clair, et sans doute même le premier Grand Prix en Europe à Barcelone.
Alors, combien de points pour Mercedes à la fin de la saison, sachant que c'était 655 unités en 2018?
Je vais faire l'inverse de Ferrari, je vais mettre 10% de moins, donc plutôt 587 dans ces zones-là. Parce que voilà, si Ferrari en met 10% de plus, ben il y en aura forcément 10% de moins ailleurs, et comme ça se joue essentiellement entre ces deux-là, voilà, donc ça les met plutôt deuxième au championnat, mais pas très loin de Ferrari. Donc ça, voilà, ça peut jouer sur peu de choses. Ça dépend combien de points les pilotes respectifs vont marquer. Et puis il faut pas oublier, parce que les points là, c'est un peu
artificiel.
Oui, parce qu'en plus cette année, il y a 21 points de plus qui vont s'inscrire, puisque le meilleur tour en course sera pris en compte, et ça peut parfois faire la différence. Donc ça va être amusant en fin de course quand on va voir les pilotes qui vont un peu se ménager ou ménager leurs pour pouvoir sortir le meilleur temps quand les voitures sont les plus légères et les plus performantes, ce qui est parfois même jusque dans le dernier tour. Donc, on va s'amuser.
Donc tu mets Ferrari champion constructeur.
Voilà.
Ben merci Pierre pour tes prédictions. On verra dans quelques mois si on disait n'importe quoi aujourd'hui ou si on avait raison, on fera un bilan. À très vite.
À suivre sur FAI.
Évidemment. On espère que ce podcast vous a intéressé. Si c'est le cas, dites-le nous dans les commentaires. On essaiera de reproduire l'expérience très rapidement. À bientôt.
Bye bye.